C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Irung à la présentation.
Bonsoir. Discours du président Kabila à la 67e session des Nations Unies à New York. Le chef d'État congolais affirme que la situation dans l'est de la RDC est inacceptable. Il demande des sanctions contre ceux qu'il qualifie d'éléments impénitents et leurs soutiens extérieurs tout en reconnaissant qu'il revient aux Congolais de défendre leur patrie. Sur le plan interne, le chef de l'État dit, je cite, nous demeurons déterminés à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais. Fin de citation. Comment analyser le discours du président de la République? Pour en parler, nous recevons M. l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo, également analyste politique. M. l'abbé, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Justin Bitakwira, député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Honorable Bitakwira, bonsoir.
Bonsoir.
Raphaël Loulou, conseiller principal du chef de l'État chargé des questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. On me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci d'être des millions à nous suivre partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Hier, le président de la République, Joseph Kabila, a prononcé son discours devant la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Parlant de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Joseph Kabila a souligné le traitement inhumain dont est victime la population de l'est du pays de la part des forces négatives. Il demande au Conseil de sécurité de faire respecter ses résolutions. On écoute le président Joseph Kabila dans cet extrait.
Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, des centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école, et forcés de porter et d'utiliser des armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs pauvres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Nous attendons de la communauté des nations qu'à cet égard, elle prenne ses responsabilités et du Conseil de sécurité qu'il fasse respecter ses résolutions. C'est la condition de leur efficacité et de leur crédibilité. Nous sommes conscients que c'est à nous, Congolais, qu'il revient de défendre notre patrie et d'assurer l'ordre public et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déterminés à assumer cette responsabilité et entendons y consacrer toutes nos ressources humaines, matérielles et financières, quitte à sacrifier nos ambitions légitimes pour l'émergence du Congo. Nous demeurons également déterminé à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais.
Honorable Justin Bitakwira, vous êtes député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Je présume que vous avez suivi le discours du président de la République. Vous venez d'en suivre également un extrait. Comment vous l'avez analysé?
Oui, d'abord, il faut que je remercie, que je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. Il est quand même devenu comme une référence par rapport à l'information et à l'éducation civique de la nation. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du président de la République aux Nations Unies. Occasion rare pour un État de pouvoir soumettre à l'opinion internationale et au monde ce qu'il subit comme traitement, qu'il qualifie lui-même d'inhumain. Mais je suis en train de me poser mille et une questions. Tous les services de la présidence de la République, parce que la présidence de la République, c'est une institution qui aurait pris part à confectionner, à concevoir le discours du chef de l'État, je crois qu'ils doivent être en même temps les complices du M23 et les complices du Rwanda. Aujourd'hui, quand on parle de ce qui se passe au Mali, on commence par Atini, on commence par Aferadine, on commence par Mijao. Donc, dans tous les discours du président de la République, nous n'avons pas entendu, ne fût-ce que citer le Rwanda, ou citer le M23, comme étaient effectivement les auteurs de ceux qui sont en train d'administrer des traitements inhumains à la population congolaise. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxième fait, on se pose mille et une questions. Le traitement inhumain qui se passe à l'est de la République. Hier, c'était le RCD. Aujourd'hui, c'est le... Avant-hier, c'était le RCD. Hier, c'était le CNDP. Et aujourd'hui, c'est le M23. Est-ce que réellement, nous pouvons croire que le président de la République est conscient du sort réservé à son pays, étant donné d'abord que la cohésion à laquelle il fait allusion, le pays est politiquement divisé, la légitimité du chef de l'État est fragilisée. Donc nous pensons qu'au lieu d'aller chercher effectivement de trouver les solutions en dehors du pays, le président de la République doit descendre sur terre et essayer d'abord de conjuguer un effort pour une cohésion nationale, le renforcement de sa légitimité, faire, la sélection de toutes les intelligences de ce pays pour faire face à l'agression du Rwanda. La MONUSCO l'a dit, l'ONU l'a dit, le Human Rights Watch l'a dit, mais il n'y a qu'un autre président de la République qui ne sait pas qu'effectivement, il y a le Rwanda qui est l'auteur de cela. Donc, nous pensons que maintenant, au lieu d'accuser le Rwanda, au lieu d'accuser tous ceux qui nous agressent, le problème majeur est d'abord un problème interne. Et donc, la solution doit d'abord être interne au lieu qu'elle soit externe. Même moi, la place du Rwanda aujourd'hui, si tu es riche dans un quartier, tu n'as même pas de fil barbelé pour essayer de ne fût-ce que garder ta parcelle. Mais tous les voisins pauvres vont entrer comme ils veulent et venir piller. Donc nous, ici aujourd'hui, nous pensons que le Rwanda a renforcé son armée, le Rwanda s'est organisé suffisamment, et nous, notre armée est suffisamment infiltrée, il n'y a pas moyen de faire face au Rwanda.
Honorable Bitaka.
Le président, en ne citant pas le Rwanda, en ne citant pas le M23, nous pensons qu'il y a un problème congolo-congolais, à l'interne d'abord, et que le Rwanda, je crois, comme tout voisin, parce que la géographie et l'histoire nous condamnent à vivre ensemble, je crois qu'à sa place, chacun viendrait piller comme il veut. Chez les voisins riches. Voilà d'abord mon point de vue, mon tout premier but de vue.
Alors, honorable, vous dites que la solution à la situation qui prévaut à l'est de la RDC est interne, non externe, et ça, le Rwanda, on se souvient, l'a souvent dit, donc vous lui donnez raison.
Moi, je ne donne pas raison au Rwanda. J'ai dit, moi, je suis riche, tout seul riche, dans les quartiers. Et je n'ai pas d'enclos. Je n'ai pas de sentinelles. Je n'ai pas de gardiens. Mais que voulez-vous que les voisins fassent parce que leurs enfants vont mourir de faim? Ils n'ont qu'à entrer à midi comme à 12h, comme à 23h. C'est l'état du Congo dans lequel ils se trouvent. Je ne donne pas raison au Rwanda qui viennent piller, tuer les Congolais. Mais je dis d'abord, c'est d'abord le riche voisin qui donne cette occasion. En 2008, moi j'étais à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Il s'est posé d'abord combien de militaires rwandais ont été en République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils ont été identifiés? Combien sont rentrés chez eux sur invitation du président de la République ou du gouvernement? Et combien sont restés? C'est depuis 2009, c'est avant-hier, on nous apprend qu'il y avait encore plus de 300 qui sont restés. Donc, sincèrement, je le dis en âme et conscience, si le président de la République revient de New York, il est obligé d'appeler toutes les forces politiques et sociales de ce pays pour qu'on s'asseye. Comme on l'ont fait les animaux malades de la peste de la fontaine, qu'on demande qui est l'âne et qui est le lion.
Merci.
Et que la cohésion nationale, ce n'est plus aussi le président de la République. Ça devient pour toute la nation. Parce que ce qui se passe à l'Est, ce n'est plus un problème pour le seul président de la République ou pour le gouvernement. Ça devient une médiation nationale.
Merci, honorable.
Et ça nous affecte tous.
Merci, honorable.
Et je voulais continuer en disant effectivement que le gouvernement doit éviter de créer d'autres conflits. Où le gouvernement ne sait pas résoudre un problème que lui-même a créé.
Honorable Bitakwira, je vous redonne la parole tout à l'heure. La réalisation me signale entre-temps que l'on ne parvient pas à joindre M. Raphaël Loulou, conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. J'espère que s'il est en train de... Voilà, donc la réalisation va tenter de faire quelque chose pour le jeune. Monsieur l'abbé Richard Bougarouka, vous êtes professeur à l'Université catholique au Congo. Comment vous avez analysé le discours du président de la République?
Merci pour la parole. Avec le président de la République, je suis tout à fait d'accord que la situation à l'est du pays est inacceptable, mais aussi et en même temps injustifiable et injustifié. Nous assistons à une défaite militaire humiliante et dont il reste à élucider les causes et à tirer toutes les leçons. Nous assistons à une occupation du territoire congolais depuis pratiquement 3 mois, sans que l'on soit capable de restaurer ce que j'appelle la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire. Troisième élément, nous assistons à une crise humanitaire aggravée par les exactions perpétrées par les rebelles, ceux qu'on appelle les mutins du M23, qui sont en fait une réédition de ces rébellions commanditées et téléguidées par le Rwanda. Eh bien, on assiste, en plus d'une crise humanitaire, à des exactions, à des violations massives des droits de l'homme dans cette partie de la République démocratique du Congo. Crise humanitaire que le Haut Commissariat pour les réfugiés a décrite en ces termes. Il y aurait dans cette région du Kivu, du Sud Kivu et du Nord Kivu, 2 millions de déplacés de guerre, dont 1 530 000 rien que dans le Kivu, le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est donc une situation très grave. Maintenant, je suis étonné d'entendre le président dire qu'il appartient aux Congolais eux-mêmes de résoudre cette crise. C'est vrai, c'est tellement vrai que normalement, se disant, le président aurait dû commencer par s'appliquer à lui-même ces conseils-là. Parce que gouverner, c'est prévoir. Où est-ce qu'il était lorsque l'armée a été défaite? Où est-ce qu'il était lorsqu'on a occupé le territoire? Où est-ce qu'il était lorsque la crise humanitaire a commencé? Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'un président de la République au Congo prête serment, il jure de sauvegarder, de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire. C'est parmi ses missions premières. Aujourd'hui, il y a problème. Lorsque le président dit que c'est à nous de nous défendre, c'est évident. Je ne vois pas pourquoi nous demanderions à d'autres de venir mourir pour l'intégrité de notre territoire et pour la souveraineté nationale quand nous-mêmes ne sommes pas prêts à remuer le petit doigt pour nous prendre en charge et assumer nos droits. Mais le premier à devoir faire cela, et pas seulement en suivant les événements, mais en les prévenant de manière préventive, c'est lui le président de la République. Alors, il faudrait d'abord qu'il se remette lui-même en question. Qu'est-ce qui s'est passé?
Se remettre en question, monsieur l'abbé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Et se remettre en question, c'est dire qu'il a prêté serment. Il a prêté serment qu'il doit de sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire. Comment se fait-il que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire soient mises en mal sans qu'il ait été capable et de le prévenir et de le dissuader, si vous voulez, et de même de juguler, d'empêcher que cela arrive? C'est un problème grave. Il y a là une question très très grave pour laquelle ce n'est pas à l'ONU qu'il faut que le président aille présenter des explications, mais au peuple congolais. Parce que le peuple congolais est souverain. Or, on sait que dans la manière dont cette situation de l'insécurité a été gérée, le pouvoir de Kinshasa porte une lourde responsabilité, une très grave responsabilité.
Monsieur Labbé, en parlant des discours qu'on a suivis hier, différents discours, on a l'impression que c'est plutôt la situation au Mali et en Syrie qui semble émouvoir le monde entier. On se souvient que lorsqu'au Mali on a coupé une main, ça bougeait le monde entier, mais apparemment la RDC n'intéresse pas. Pourquoi ?
Et parce que tout simplement, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Ce qui est arrivé ne devrait pas arriver. Une armée de 100 000 personnes qui ne sait pas contenir des mutins dont le nombre serait estimé à 600, même s'ils étaient 2 000. Même s'ils étaient soutenus par le Rwanda. Le Rwanda a une armée de 30 000 hommes avec une composante navale, une composante aérienne. Comment se fait-il que le Congo, avec une armée de 100 000 personnes, n'est pas capable de contrer un mouvement de cette dimension-là. Et donc, comment expliquer que le Congo n'arrive pas à surveiller ses frontières? Vous savez que nos frontières sont devenues une passoire. Tout le monde peut entrer et sortir comme il veut. Comment se fait-il que le Congo n'arrive même pas à recenser sa population et identifier les nationaux? N'importe qui entre dans le Congo, il peut aujourd'hui se proclamer congolais et donc faire tout ce qu'il veut. Eh bien voilà, il y a tout un tas de fautes lourdes, de déficiences lourdes de gouvernance qui ont créé cette situation-là et dont les pouvoirs en place portent l'entière responsabilité. Et donc idem pour ce qui est de l'armée. C'est depuis la transition qu'on dit qu'il faut une armée performante, dissuasive,
républicaine.
Qu'est-ce qu'on attend pour la mettre sur pied? Qu'est-ce qu'on a fait pour la mettre sur pied?
Et donc, vous donnez raison à l'honorable Bitakwira qui a dit que la solution est plutôt interne qu'externe.
Oui, le président l'a dit aussi. Seulement, il oublie de dire que ce n'est pas une situation, naturelle, qui proviendrait d'une fatalité quelconque. C'est une situation qui est liée au déficit de gouvernance et de leadership. Et ça, c'est l'affaire, le problème est du président de la République et du leadership national. Merci. Et si on ne fait pas cela, si nous ne nous prenons pas en charge, si nous continuons à commettre des fautes, personne ne va nous soutenir.
Merci Monsieur l'abbé Richard Mugaruka. Nous vous avons annoncé la participation de Raphaël Oulu, conseiller principal du chef de l'État chargé des questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. Dommage, il ne participe pas plus avec nous à cette émission, mais par contre, nous avons à sa place l'honorable Gaston Moussemena, député national de la majorité présidentielle, cadre du PPRD. Honorable Moussemena, bonsoir et merci d'avoir accepté, vraiment en retard, presque en catastrophe, de participer à cette émission. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir.
Voilà, vous avez également suivi le discours du chef de l'État. Monsieur l'abbé Mugaruka a relevé certains faits à charge du chef de l'État, lui en tant que garant de la nation, qui n'a pas, en termes clairs, joué convenablement son rôle. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on devrait trouver des solutions. L'honorable Bitakwira a dit que la solution également était interne et non externe. Quelle est votre analyse?
Bien, je crois qu'il faudrait que tous les Congolais comprennent que les solutions pour les problèmes du Congo doivent être trouvées par l'ensemble des Congolais. Voilà pourquoi nous avons un chef de l'État qui considère que nous tous, nous devons nous impliquer pour qu'on arrive à trouver les solutions aux problèmes qui nous concernent et qui sont devenus des problèmes récurrents que tout le monde connaît. Il ne faudra pas pointer, identifier seulement les chefs de l'État ou peut-être l'ensemble des institutions. Mais il faudra que tous, dans une cohésion nationale sincère, nous sachions, chacun à ce qui les concerne, contribuer à la solution d'un problème que nous maîtrisons, que nous connaissons. Donc je crois que c'est un faux problème de parler seulement du chef de l'État, parce qu'il est garant de la nation. Nous savons que depuis un certain temps, beaucoup de Congolais, de la majorité comme de l'opposition, vous suivez bien les dossiers, sont aussi impliqués dans ce qui se passe au niveau de la région. Et nous pensons que le chef de l'État, en clairvoyant, voudrait d'abord que nous réussissions une sincère cohésion pour que nous arrivions à vaincre clairement ces problèmes. Donc, parler ou minimiser l'apport, les propos du chef de l'État, je pense que c'est vraiment injuste de la part des Congolais, c'est vraiment injuste de la part des acteurs politiques qui connaissent bien les tenants et les aboutissants de ce problème qui sont avec vous sur le plateau. Je considère pour ma part que ce dossier a fortement évolué. Voilà pourquoi le chef de l'État n'a peut-être pas essayé de citer des noms de gens ou de pays parce que c'est un dossier qui est déjà pris en charge par le Conseil de sécurité. Il y a eu plusieurs résolutions et il y a déjà des stratégies qui sont mises en place dans le cadre de la région, dans le cadre de la communauté internationale pour qu'on arrive à une solution acceptable et qui peut rassurer tout le monde.
Honorable Moussemena, on a suivi, je le disais tout à l'heure, on a suivi beaucoup d'autres discours, hein, d'autres États qui sont en situation difficile, qui sont sous menace terroriste, ainsi de suite. Ils n'ont pas hésité à citer des noms. Et même dans la forme, on a senti qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient percutants. Mais pourquoi le président Kabila n'a-t-il pas cité le M23, le Rwanda clairement, mais à la place, il parle du M23 en termes d'impénitents, d'éléments impénitents. C'est quand même assez bizarre, l'honorable Bitakura l'a également dit.
Monsieur le journaliste, le chef de l'État a déjà eu à citer plusieurs fois le Rwanda comme pays agresseur. Mais à ce stade où nous sommes en train de nous organiser, à ce stade où il y a des concertations déjà au niveau régional avec la CIRGL, à ce stade où la communauté internationale a accepté de nous accompagner, il n'est plus nécessaire de remuer les couteaux sur la plaie. Ce qui nous importe, c'est quoi, nous les Congolais? C'est la solution, c'est la paix, c'est la reprise des activités au niveau de l'Est de notre pays. Voilà comment le chef de l'État, en responsable, n'a pas trouvé nécessaire de remuer les couteaux sur la plaie pour qu'ensemble, nous voyons dans la cohésion comment résoudre ce problème qui n'a que trop duré. C'est juste une question de conformité, c'est pas nécessaire de remuer, le couteau dans la plaie.
Alors vous citez les voies diplomatiques qui sont déjà, les solutions diplomatiques qui semblent déjà très avancées. Alors juste après son discours, le président Kabila a accordé une interview exclusive à nos confrères de la radio des Nations Unies et là il a indiqué qu'il est tôt de parler des résultats tangibles concernant les sommets qui ont eu lieu récemment à Kampala en Ouganda, mais il a estimé qu'on est sur la bonne voie étant donné qu'il est prévu un mini sommet ce jeudi à New York sur la région des Grands Lacs. Est-ce que le président Kabila est vraiment réaliste? Monsieur l'abbé Mugaruka a dit que le président devrait revenir les pieds sur terre. Est-ce qu'il est vraiment réaliste quand on sait, par exemple, qu'au dernier sommet de Kampala, le président Kagame n'était pas là? Et, apparemment, il n'y a que la RDC qui croit en ces sommets.
Monsieur le journaliste, l'abbé Mugaruka, il connaît qu'au niveau d'un chef de l'État, il faudra reconnaître qu'il y a beaucoup de paramètres que le chef de l'État maîtrise, qui les pousse à positiver la situation que nous vivons à l'Est, qui le pousse à donner un sens d'optimisme élevé, parce que déjà, la diplomatie qui a été menée par lui est en train de porter des fruits tangibles. Il n'est pas nécessaire, alors qu'il y a un autre sommet qui s'étendra aux États-Unis, que le chef de l'État utilise un langage qui ne cadre pas avec les normes diplomatiques. Donc, comprenez, chers frères, que au niveau du chef de l'État, il y a beaucoup d'éléments maîtrisés que peut-être les communs des mortels n'ont pas et qui font que le chef de l'État soit positif, qui font que le chef de l'État soit rassurant. Je crois que nous devons savoir faire confiance à notre chef de l'État parce qu'il a la maîtrise de la situation. Il nous l'a démontré quand même à plusieurs reprises. Il est vrai que les problèmes reviennent parce que c'est un problème humain. C'est pas une machine, mais je crois qu'à ce stade, après tout ce qui a déjà été fait, il y a moyen d'espérer. Et parmi les stratégies, le chef parle déjà de la cohésion. Vous savez que déjà au niveau du Parlement, il s'est assumé clairement au niveau des responsables pour qu'il y ait retouche ou révision de la loi sur la CENI, parce que c'est parmi aussi les problèmes qui gênent un peu la cohésion nationale. Il y aura une loi sur la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà les éléments qu'il faut savoir intégrer et que le chef de l'État maîtrise. Il a déjà donné des instructions à cet effet. Et les choses pourront aller dans le sens de cette cohésion-là souhaitée par tous les Congolais, gage pour la paix dans l'ensemble de notre pays.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale pour vous, honorable Gaston Moussemena.
Jacob Benidjo, en province orientale à Kisangani. Qu'est-ce que le président Joseph Kabila veut signifier à disant qu'il revient aux Congolais de défendre leur parti lorsque nos militaires sont incapables de nous défendre? Par quels moyens? Il avait envisagé trois options, militaires, diplomatiques et politiques. Maintenant, nous, les Congolais, nous allons envisager quels moyens? Il demande encore des sanctions contre les éléments impénitents, alors qu'il ne connaît très bien nos adversaires. Pourquoi n'a-t-il pas pointé du doigt directement les Rwandais à face, comme l'occasion s'est présentée, et proposé ce que lui compte faire en tant que garant de la nation contre nos adversaires?
Alors, par rapport à la question sur le fait de citer le Rwanda, vous y avez déjà répondu. J'aimerais plutôt mettre l'accent sur la première assertion de sa question. Qu'est-ce que le président Kabila veut signifier en disant qu'il revient aux Congolais de défendre leur patrie? Monsieur l'abbé Mugaruka a également posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Je crois que depuis Lumumba, nous savons que les solutions pour le Congo doivent être trouvés par les Congolais. Et ici, nous sommes agressés. Il faudra faire prise de conscience des dignes fils de ces pays pour défendre leur pays. Militairement, d'abord, il est vrai que le chef de l'État a parlé de l'aspect diplomatique et politique. Mais ici, nous sommes en train de faire face à une agression militaire. Il faudra qu'il y ait une prise de conscience au niveau de nos forces armées. Et comme il y a encore quelques petits problèmes, nous sommes les chefs de l'État. Au niveau de l'état-major, est allé jusqu'à vouloir provoquer le recrutement pour qu'on ait du nouveau souffle. Il faut comprendre par cela que nous devons prendre conscience pour qu'on se défende. D'abord nous-mêmes, avant de compter sur l'aspect diplomatique. Parce que lorsque vous vous présentez face aux autres partenaires en position de faiblesse, vous ne saurez pas faire passer vos voix. Vous ne saurez pas faire passer votre volonté. Voilà pourquoi le chef de l'État invite les Congolais dans la cohésion à savoir se défendre, c'est-à-dire que les jeunes, que nos éléments de forces armées prennent conscience que c'est notre pays, nous devons mourir pour notre pays.
Merci honorable Moussemena. Honorable Justin Bitakwira, vous venez de suivre l'honorable Moussemena et M. l'abbé Mugaruka. En parlant de la cohésion nationale, l'honorable Moussemena a mis l'accent notamment sur la restructuration de la CENI qui est déjà en examen à l'Assemblée nationale. Vous y avez participé, c'était d'ailleurs parmi les éléments de débat ce soir à la plénière. Quel est votre point de vue en ce qui concerne la cohésion nationale?
Oui, il faut d'abord que je dise que je veux saluer l'abbé Mugaruka et le collègue Moussemena, qui est un ami personnel. Bon, je comprends pourquoi Raphaël Houle peut-être n'est pas venu, parce que moi aussi j'ai appartenu à la majorité, à mon mandat passé, avant que je n'aille à l'opposition, suite à cette question d'agression de la République démocratique du Congo. Je dois d'abord dire que le président Kamere a perdu son poste pour cette question dont est toujours allégeant l'entrée des troupes rwandaises, opération conjointe, à Manileo, à Manikesho, c'est pas beaucoup d'opérations là. Mais nous avons toujours été en train de tourner autour du pot. Et donc, le président Kamere a écrit aux Nations Unies une proposition de sortie de crise, comme il l'a fait depuis 2008, sur le plan économique, sur le plan politique, et pourquoi pas sur le plan diplomatique et sécuritaire. Il y a beaucoup d'aspects dans cette proposition de sortie de crise. Donc pour moi, je tiens de compte que le gouvernement congolais, le gouvernement de Kinshasa, dirigé par la majorité aujourd'hui, c'est comme un malade qu'on a ensorcelé. Et il va demander le remède chez les sorciers. Les gens oublient. Moussemena, il est de Kisangani, il connaît pertinemment bien combien il y a eu de morts à Kisangani, opposant les Rwandais et les Ougandais. Et il a aujourd'hui les oreilles et les yeux tournés de la paix vers l'Ouganda, qui aurait tué plus de 1000 personnes dans sa propre ville de Kisangani. Donc je connais qu'à la majorité, effectivement, il n'y a pas de son de cloche. J'y ai été et je connais comment ça fonctionne. Il n'y a pas de débat d'idées. Tous ceux qui sont à la majorité, on les appelle en anglais les yes men.
Honorable Bitakwira, je vous ai posé une question précise concernant la cohésion nationale. Allons-y rapidement, parce que le temps ne nous attend pas.
Je ne voulais pas répondre comme à l'église.
Allez-y, je vous en prie.
On dit toujours amen, amen, amen.
Voilà, répondez tout de
suite. Je voulais donc faire une analyse
pour dire qu'effectivement, ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est plus une question de la majorité. C'est le sort du Congo qui se joue aujourd'hui. Et les forces politiques, et les forces sociales, non seulement elles doivent être impliquées, mais la majorité doit comprendre qu'elle est incapable, seule, de pouvoir nous apporter une solution. Et quand on parle de cohésion, la cohésion signifie quoi? En Afrique du Sud, on avait créé ce qu'on appelle la Commission Vérité et Réconciliation. Maintenant, elle s'impose ici. Elle s'impose dans notre pays. Pour savoir qui fait quoi. Comment notre armée est infiltrée jusqu'au sommet. Nos officiers militaires, un colonel de l'armée au front, il touche combien? Un soldat simple, il touche combien? Donc la cohésion nationale passe par la résolution d'abord des petits problèmes élémentaires. Et je parle de l'armée. Une armée infiltrée ne peut pas faire la guerre. Une armée non payée ne peut pas faire la guerre. Une armée non ravitaillée ne peut pas faire la guerre. Nous sommes à plus, nous avons plus de 200 000 ou 180 ou 150 000 militaires. Notre armée est devenue comme une armée de foule. Mais c'est pas une armée du peuple. Parce que finalement, cette armée a été presque abandonnée à son triste sort. Donc la cohésion nationale, mon frère, ça j'insiste, et je reviens à ta préoccupation, la cohésion nationale passe à la vérité et réconciliation.
La réconciliation. Voilà, honorable Bitakwira, il y a cette réaction qui nous vient de Bougna en province orientale. Pour vous, je vous demanderai d'y répondre brièvement.
Parti de Bougna de la province orientale. Le discours du président de la République à New York démontre sa constance à ce qui concerne sa position dans la résolution de crise du Nord Kivu par les voies suivantes. Politique, diplomatique, militaire ou la combinaison de ces trois voies. Et là, c'est le pragmatisme d'un homme d'État qui explore tous ses moyens, contrairement aux faucons qui ne veulent voir le règlement de cette crise à travers les visières de Kalachnikov qui ne procure qu'une paix éphémère. La Libye et l'Irak sont des exemples éloquents.
Honorable Bitakwira, juste un mot en guise de
réponse. Oui, je voudrais d'abord rappeler, que nous sommes solidaires tous au retour de la paix dans notre pays. Nous sommes solidaires que la cohésion nationale se fasse. Mais je vais rappeler à l'auditeur qui me suit pour dire qu'effectivement, le gouvernement congolais, quels que soient tous les sons de cloche qui viennent de partout, de Human Rights Watch, qui a demandé hier à la Banque mondiale de pouvoir arrêter son aide à l'égard du Rwanda. Mais le président de la République, dans toutes ces interventions, je sais que dans sa première intervention par rapport au Rwanda au M23, merci, il avait parlé des forces obscures. Il n'a pas cité ni le M23 ni le Rwanda.
Merci honorable. Souffrez que je vous arrête, je vous ai dit, demandé d'y répondre en un mot. Monsieur l'abbé Mugaruka, il y a cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema pour vous.
Augustin Mwango depuis Kalima dans la province du Maniema, je pense que le chef de l'État a parlé comme parlerait tout Congolais, soucieux de voir la paix revenir dans le pays, mais en tant que garant de la nation et pour être convaincant, il aurait pu montrer ce que lui et son gouvernement ont déjà fait pour rétablir cette paix au pays, car il faut l'avouer, hein, la communauté tant nationale qu'internationale a des doutes sur la réelle volonté du pouvoir en place de mettre fin à la résurgence des groupes armés et surtout aux violations des droits humains perpétrés aussi bien par les rebelles que par les forces régulières.
Monsieur l'abbé, je prends la dernière assertion de sa réaction et concernant les droits humains, les droits de l'homme. Le président Kabila a dit dans son discours, nous demeurons également déterminés à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais.
Oui, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut qu'il le dise. Ça, c'est tous les jours que tous les États du monde sont appelés à garantir la sécurité et les droits de leur peuple. C'est une vérité tellement générale, tellement évidente qu'il ne faut même pas y revenir. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a urgence. C'est chaque jour que nos concitoyens meurent. Je vous ai dit que le Haut Commissariat pour les réfugiés a parlé de 2 millions de déplacés de guerre. Et on a souligné les exactions auxquelles ces populations sont soumises de la part du M23. Il y a donc urgence. C'est chaque jour que nos concitoyens meurent. Il faut que le gouvernement agisse. Et le plus tôt, c'est le mieux. Parce que les gens qui meurent aujourd'hui, ce n'est pas après les négociations, on ne va pas les ressusciter.
Cela passe-t-il par la réconciliation et la vérité, comme a dit l'honorable Bitakura?
Oui, mais bon, la réconciliation et la vérité, c'est vrai. Mais
pour refaire la cohésion nationale.
Voilà, revenons à cette question de la cohésion nationale. La cohésion nationale est fondamentalement une question de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Et cette confiance-là ne s'impose pas, ne se décrète pas, elle se mérite. Le peuple ne peut faire confiance à ses dirigeants que si ces derniers assurent sa sécurité et ses droits. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller demander aux gens qu'on tue, aux gens qui ne sont pas protégés par l'État, de lui faire confiance. Dans ce dossier de l'insécurité à l'est de la RDC, c'est depuis plusieurs années que ce problème existe. D'ailleurs, le député de la majorité a parlé d'un problème récurrent. Mais c'est depuis des années que l'on va de défaite en défaite, de capitulation en capitulation, de trahison en trahison, d'une gestion calamiteuse à une gestion calamiteuse, d'improvisation en improvisation, d'accord en accord, sans que l'on voit le bout du tunnel. Comment voulez-vous demander aux gens qui aujourd'hui sont occupés à Rutshuru, comment voulez-vous demander à la population qui aujourd'hui est déplacée de faire confiance à un pouvoir qui est pratiquement absent, incapable de le protéger lorsque il est attaqué par des agresseurs connus et bien identifiés? Il faut, et je reviens à ce qu'a dit en dernier le dernier intervenant de Kalima, eh bien, les dirigeants ne peuvent pas exiger du peuple et de l'armée la mobilisation et la cohésion s'ils ne partagent pas les richesses du pays avec ce peuple-là. S'il n'y a pas de justice distributive, si les dirigeants ne se sentent pas vraiment concernés par la sécurité, par le bien-être de leurs concitoyens, ils ne peuvent pas espérer qu'ils vont exiger d'eux des sacrifices. Il y a, comme je le disais au début, en matière de gouvernance, le fait que la confiance se mérite. Parler aujourd'hui de l'État congolais, du pouvoir congolais et de l'armée congolaise et des institutions de la République aux gens qui sont dans les zones occupées et qui sont aujourd'hui meurtris, maltraités, sans que ceux qui devraient les protéger y arrivent, eh bien, comment voulez-vous que vous les en convaincre? Comment vous voulez leur parler de l'État quand ils voient que cet État est absent et surtout qu'il est défaillant? Donc, j'insiste beaucoup. Si nos dirigeants veulent que nous puissions créer la cohésion nationale, il faut qu'ils le méritent et qu'ils apprennent à jouer dans la transparence, qu'ils évitent de traiter des problèmes qui touchent à la survie de nation dans l'opacité, comme si le pays était leur propriété privée et comme si le peuple congolais était leurs objets. C'est cela qui est important. Et c'est cela qu'il faut restaurer. Et nous en sommes bien loin.
Voilà. Honorable Moussemena, la cohésion nationale ne se décrète pas comme par une baguette magique. Plusieurs observateurs ont noté que l'opposition a fait plusieurs propositions pour que la classe politique se retrouve notamment autour d'une table pour refaire cette cohésion nationale, brisée également à travers les élections du 28 novembre 2011. Mais la majorité a toujours résisté.
Bien, monsieur le journaliste, je suis un peu malheureux de comprendre que par un jeu de mots de personnalité que je respecte beaucoup, cherche à réduire la cohésion nationale au partage des responsabilités. On parle de partage des ressources. Vous comprenez directement qu'on voudrait qu'on se mette autour d'une table pour refaire le gouvernement, pour faire le partage des tables. C'est bien malheureux, alors que nous avons déjà une constitution, nous avons déjà un processus électoral qui est en marche et qui fonctionne normalement. Je crois qu'il faudra que les uns et les autres comprennent qu'il faudra qu'on se mette avec les institutions, qu'on fasse confiance aux institutions. Il est vrai que la confiance ne se décrète pas, mais il faudra être avec ceux-là qui sont au sein des institutions, donner des propositions concrètes pour qu'on améliore. Parce que les problèmes du Congo, ce n'est pas seulement les problèmes de la majorité. Bitakura l'a dit, il voulait s'attaquer à moi. Après, il a compris que le chef de l'État était clairvoyant. La cohésion nationale, c'est cette façon de mettre et la majorité et l'opposition ensemble, parce qu'il s'agit des problèmes des Congolais, ce n'est pas le problème seulement de la majorité. Il faudra, derrière le chef de l'État, comme lui-même l'a bien dit, que nous voyons comment souder nos liens pour que ensemble nous arrivions à mettre fin à la guerre. Parce qu'il y a trop de complicité interne. Ceux-là qui parlent les savent. Nous tous, nous le savons. Que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition, ce sont encore des Congolais qui se compromettent. Voilà pourquoi les chefs exigent cette cohésion. Et cette cohésion passe par ce que nos amis de l'opposition ont dénoncé. Par ce que nous-mêmes nous avons dénoncé la mauvaise façon de l'organisation de notre élection du 28 novembre. Il faudra qu'on corrige pour refaire cette confiance. Voilà comment déjà le chef de l'État avait prévu une révision de cette loi, qui est une loi sur la Commission des droits de l'homme, je vous l'ai dit, pour que tous les Congolais se sentent concernés afin que nous arrivions à ne plus laisser des failles que nos adversaires exploitent. Voilà, je crois que l'espoir est permis.
Honorable Moussemena, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission, donc j'aurai besoin de réponses assez courtes. On a l'impression, à suivre les analyses de l'abbé Mugaruka, de l'honorable Bitakwira, qu'il y aurait un fossé entre la perception du peuple congolais et la perception des dirigeants ou de la majorité au pouvoir.
Bien. Nous sommes en bonne période démocratique et en démocratie, chacun réfléchit à sa manière. Mais il ne faut pas tout simplement faire en sorte qu'un grand nombre de Congolais arrivent à réfléchir de la même façon. Et pour cela, il y a des institutions qui sont en place. Et il y a eu des processus démocratiques. Voilà pourquoi, au sein du Parlement, nous sommes en train de discuter pour que nous voyions comment arriver à apporter des solutions à nos préoccupations. Moi, j'interviens ici. Je suis à Ouagadougou, vous le savez, je vous l'ai dit. Je suis à Ouagadougou en mission parlementaire, entre autres pour arriver à apporter la solution à cette crise qui secoue notre pays à l'est. Donc il faudra qu'ensemble nous arrivions à nous parler franchement. C'est possible, monsieur le journaliste, si chacun met de côté ses ambitions personnelles.
Oui, mais la cohésion nationale, vous ne parlez que des institutions, la société congolaise dans son ensemble aimerait participer à cette cohésion, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait dans ce sens.
Bien, la loi est en train d'être discutée à partir d'aujourd'hui à Kinshasa, je vous l'ai dit. La loi est en train d'être discutée pour intégrer l'ensemble des forces vives de la nation, afin que chacun arrive à donner, à faire preuve de toutes les expériences qu'il maîtrise pour qu'on arrive à évoluer. Je crois que tout le monde trouvera sa place à partir de la révision de notre loi sur la FIN.
Alors, un mot en guise de conclusion, honorable Moussemena, parce que l'émission va prendre fin d'ici là.
Une fois de plus, j'ai dit, je répète et j'insiste, nous devons faire confiance au chef de l'État. C'est lui que nous avons choisi, il est le garant de la nation, il porte les espoirs de tout un peuple, nous devons nous souder à lui pour qu'il nous amène vers un avenir meilleur. Il en a la volonté, nous le savons. Monsieur le président de Kabila a la volonté, il a besoin de notre appui.
Merci. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, un mot en guise de conclusion.
En conclusion, je veux dire que le peuple ne peut pas et ne doit pas faire confiance à un pouvoir incapable d'assurer sa sécurité et ses droits fondamentaux consigné dans la Constitution. C'est aux dirigeants de rendre compte au peuple et pas l'inverse. Dès lors que le peuple estime que ses dirigeants ne lui assurent pas ses droits fondamentaux et constitutionnels, ce sont les dirigeants qui doivent rendre compte et éventuellement subir la sanction du peuple et non l'inverse.
Merci M. l'abbé. Honorable Justin Bitakwira, conclusion.
En conclusion, c'est-à-dire que le président Tal Kamerhe, comme je vous l'ai dit, il a proposé une piste de sortie de crise. Il propose une zone de libre-échange. Il propose une force sous-régionale du genre Ecomog en Afrique de l'Ouest. Mais ce que je voudrais dire ici est que nous sommes obligés, par l'histoire et par la géographie, de vivre ensemble.
Merci.
Le Sud-Soudan, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et consorts. Mais aussi, il faut que la majorité comprenne que le président de la République a été élu avec moins de 40%, moins de 50%. C'est plus de la majorité.
Merci, honorable.
Le peuple congolais dont il a besoin pour réconforter sa légitimité.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Des remarques, des suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net, dec@radiocapi.net. Au revoir.